Car toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré et d'être exalté. Toi qui as donné ta vie en mourant sur la croix, toi l'agneau de Dieu sans tache, qui t'es livré pour nous coupables et pécheurs, tu t'es donné par amour pour nous, et tu es ressuscité le troisième jour, et tu es vivant aujourd'hui. Parce que tu es vivant, nous t'adorons. Nous adorons un Christ et un Sauveur vivant. Oh, que plusieurs pendant ce rallye puissent réellement te connaître comme le Sauveur vivant. Oh Jésus, bénis chacune des personnes qui sont ici. Fais-leur ressentir ton amour et ta compassion divine. Montre-leur que tu les aimes et qu'ils repartent de ce lieu dans la paix et dans la joie du Seigneur, en disant partout, il est réellement ressuscité. Oh, Jésus, mets un chant nouveau dans beaucoup de bouches, mets un amour nouveau dans beaucoup de cœurs, mets une espérance nouvelle dans beaucoup d'esprits. Et que tout exalte le nom, au-dessus de tout le nom, et de tous les noms, le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alléluia. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Il y a quelque chose de merveilleux lorsque l'apôtre Paul prêchait. Vous le remarquez dans ses épîtres. Il n'attendait pas la fin de l'épître pour louer son Dieu. Il semble parfois qu'il est saisi d'une extase extraordinaire. Devant cette vision du Christ ressuscité, il n'attend pas la fin de son message pour adorer le Seigneur qui l'a sauvé et le Seigneur qu'il est en train de servir. Nous voyons cela dans ses épîtres qui sont entrecoupés d'adoration, d'expressions vivantes, d'un amour profond pour Jésus. Alléluia. Oh, puisse sa grâce nous bénir chacun en cet après-midi et pendant toutes ces réunions. Alléluia. Attendez-vous à ce que quelque chose se passe, car les bras du Seigneur sont toujours pleins. Son amour est toujours débordant pour vous bénir. Laissez-moi vous dire une chose, si vous ne le savez pas, Jésus vous aime.
Alléluia.
Vous ne le saviez pas? Alors je vous le répète, Jésus vous aime.
Amen.
Et ce qui est encore plus merveilleux, il vous aime tel que vous êtes. Vous auriez pu dire Alléluia, là.
Alléluia.
Il vous aime tel que vous êtes.
Alléluia.
Il nous prend tel... Pardon. Il nous prend tel que nous sommes. Et ensuite, il nous transforme à son image. N'est-ce pas merveilleux? Car son but est de venir dans notre vie, d'y faire sa demeure et de nous changer. Et c'est ce qu'il va faire. J'en suis persuadé. J'aimerais vous apporter un message qui est une révélation du cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon parfois de voir et de sentir ce que notre Maître ressent. La parole de Dieu nous dit qu'il nous faut avoir les sentiments qui était en Jésus-Christ. Et si nous voulons expérimenter une vie chrétienne vivante, exaltante, satisfaisante pour soi-même et débordante pour les autres, alors nous allons lire un passage maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 10. Ce verset va nous révéler... Avec deux, trois autres versets, ils vont nous révéler le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et nous montrer ainsi combien il est merveilleux et combien il désire que nous soyons transformés à son image et être ainsi des hommes et des femmes, pas seulement des prédicateurs qui prêchent la parole, mais des hommes et des femmes, du commun, des laïcs, chacun d'entre nous peut expérimenter la puissance et l'amour du Seigneur dans sa vie. C'est pourquoi ce message sera dans le but d'aider chacun d'entre nous. Il n'est pas destiné au pasteur ou au ministère. Bien sûr, tout le monde peut en retirer une bénédiction, mais spécialement pour chacun d'entre nous ici qui avons notre travail et qui voulons être une bénédiction du Seigneur. Réjouir profondément le cœur de notre Dieu dans notre témoignage et vivre une vie qui le glorifie et qui est une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et j'aimerais vous donner cet après-midi donc les cinq sources de la vie abondante. Qui est-ce qui veut la vie abondante ici? Levez la main. Alléluia. Tout le monde, je regarde bien, est-ce que tout le monde... Tout le monde, hein? La vie abondante. Alors c'est déjà un acte de foi, c'est déjà pas mal. L'important c'est de vouloir et ensuite Dieu fait le reste. Quelles sont donc ces cinq sources de la vie abondante pour chacun d'entre nous? Nous allons découvrir cela donc maintenant dans l'évangile de Jean à partir du, chapitre 10 et au verset 10. Si vous avez vos Bibles maintenant, lisons ensemble quelques versets. Écoutons attentivement sa parole et découvrons le cœur de notre Seigneur dans ces versets. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, bien sûr c'est Jésus qui parle, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Que le Seigneur bénisse cette parole et l'inspire pour notre édification. Quelle est donc la première source de la vie abondante? La première source est celle-ci. Nous devons premièrement savoir que Jésus veut nous donner une vie abondante. C'est tout simple. Mais ça commence par là. Je répète ce que je dis. Nous devons d'abord être convaincus personnellement que Jésus veut nous donner la vie abondante. C'est par là que ça commence. Tant que nous ne pensons pas que Jésus veut nous donner cette vie abondante, alors jamais nous ne ferons des progrès. Notre foi sera limitée. Mais si nous sommes convaincus qu'il le veut, alors... de grandes bénédictions nous attendent. Savez-vous ce que signifie le mot « abondant » dans le texte original grec? Le mot « abondant » veut dire « au-dessus de la normale ». Autrement dit, Jésus est venu amener une vie qui est au-dessus de la normale. Qu'est-ce qu'une vie au-dessus de la normale? C'est une vie qui vous satisfait vous-même, mais vous en avez de trop. Et il y a un trop-plein, et ce trop-plein est pour les autres. Autrement dit, nous ne vivons pas une vie abondante si notre vie ne coule pas sur les autres, n'est pas une bénédiction aux autres. Désirez-vous vraiment être une bénédiction aux autres? Voilà le principe qui se trouve précisément dans ces hommes d'affaires. C'est une vie qui est vécue pour soi, mais qui est abondante, qui est débordante et qui veut communiquer aux autres ce qu'ils ont reçu. Et Dieu a pourvu à cela. Alléluia. La première chose que vous devez régler dans votre propre vie,
Si vous voulez la vie abondante, il faut que vous soyez convaincus, Jésus veut que j'expérimente une vie abondante. Autrement dit, il veut me bénir, il veut me sauver, il veut me délivrer, il veut me guérir, il veut me consoler, il veut mon bien ardemment, il le veut. Alléluia. Savez-vous que beaucoup de personnes disent par exemple que Jésus peut les bénir, que Jésus peut les guérir, que Jésus peut leur donner la vie abondante, mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire, c'est que Jésus veut leur donner ces choses. Savez-vous que nous pouvons dire que Jésus peut faire beaucoup de choses dans notre vie et ne rien expérimenter ? Il ne faut pas exprimer beaucoup de foi en disant « Jésus peut faire beaucoup de choses ». Cela ne suffit pas. Nous devons faire un pas de plus. Nous devons pouvoir dire en harmonie avec celui qui nous aime, non seulement tu peux me bénir pendant cette mission, pendant ce rallye, mais tu veux me bénir. Alléluia. Non seulement ici et dans ma maison, partout où je serai, tu le veux, Seigneur. Un jour, un lépreux est venu vers Jésus et il lui a posé une question. Il lui a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Voyez-vous, le lépreux était convaincu que Jésus pouvait le guérir, mais il n'était pas convaincu que Jésus voulait le guérir. Alors Jésus a dû faire quelque chose de spécial avec lui. Et qu'a répondu Jésus? Vous vous en souvenez? Je le veux, sois pur. Mais savez-vous que dans le texte grec, encore une fois, vous savez, je n'ai pas fait du grec, ne pensez pas que quand je dis cela, que j'ai fait du grec. Non, il y a des fois dans mes lectures à gauche et à droite, alors c'est ce que je retiens. Mais j'ai retenu ceci, c'est que Jésus, quand il a répondu « Je le veux », il a dit quelque chose de plus et qui est très important pour le sujet que nous traitons maintenant. Il a dit non seulement « Je veux, sois pur », mais « Je le veux, certainement ». Voilà ce que le Seigneur a dit. « Je le veux, certainement, sois pur ». Autrement dit, mais quelle question tu me poses? C'est une drôle de question que tu me poses. Cette question révèle que nous ne connaissons pas assez le cœur de notre Seigneur. Nous connaissons peut-être sa puissance, mais nous n'avons pas encore la révélation de son amour. Quelle question tu me poses, pauvre lépreux? Je te comprends, bien sûr, mais je veux maintenant régler ce problème dans ta vie. Je le veux certainement. Alléluia. Je le veux certainement. Autrement dit, je veux certainement te bénir. La question qui se pose n'est pas « Seigneur, veux-tu me bénir ?» Mais la question est, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. « Toi, veux-tu être béni ?» Non pas « Seigneur, veux-tu me bénir ?» Mais le Seigneur lui-même nous pose la question. « Toi, veux-tu ? Moi, je le veux toujours. » Amen. Amen. On peut dire « Alléluia » de temps en temps.
Alléluia.
Voilà. Ah, voilà, ça va commencer à aller. Alors, chers amis, j'insiste sur ce point parce qu'il est très important. Si nous voulons que notre foi soit forte pendant les réunions, dans tout ce que vous entendez, il nous faut aboutir à cette conclusion absolument importante. Non pas dire « Oh Jésus, tu es merveilleux, tu peux faire beaucoup de choses pendant ce rallye, tu peux faire beaucoup de choses, mais cela ne suffit pas pour que Dieu agisse à votre égard. » Pour que vous expérimentiez sa grâce, sa puissance, vous devez faire un pas de plus. Vous devez pouvoir dire, Seigneur Jésus, non seulement tu le peux, mais tu le veux. De tout ton cœur, tu le veux ardemment. Alléluia.
Alléluia.
Voilà la première source. Être convaincu que Jésus veut nous bénir. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance.
Alléluia.
Ce n'est pas de son côté qu'il y a la restriction. Les limitations, c'est de notre côté. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître son cœur d'amour. Oh, connaître son cœur, c'est connaître Dieu lui-même. Alléluia. Quelqu'un a dit un jour que Dieu est un père au cœur de mère. Et je crois que c'est vrai, n'est-ce pas vrai?
Amen.
Dieu est un père au cœur de mère. Quelle compassion, quelle grâce, quelle détermination dans le cœur de Jésus de vous bénir. De vous bénir. Bien souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous exclut de sa bénédiction, alors qu'en définitive, c'est nous qui nous excluons de ses grâces et de ses bénédictions. Oh, mettez-vous dans le cercle de son amour. Soyez saisis par sa compassion divine et dites en harmonie avec sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Oh, Seigneur, non seulement tu peux me sauver, me guérir, me délivrer, mais tu le veux certainement. Je vous assure, votre foi va faire des bonds de géant si vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit, à ressentir comme Jésus ressent et à agir comme Dieu agit. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors il faut que j'aille un peu plus loin maintenant. Je vais vous donner quand même les cinq sources parce qu'autrement vous allez être assoiffés. Voyons maintenant la deuxième source de la vie abondante. La deuxième source de la vie abondante est celle-ci, d'après le passage que nous venons de lire, c'est que non seulement le bon berger veut donner la vie en abondance, mais maintenant, le bon berger travaille volontairement et par amour pour ses brebis. N'est-ce pas vrai? Ce que le bon berger fait, il le fait par amour. Par pur amour, un amour totalement désintéressé. Mais savez-vous que nous pouvons travailler pour Dieu d'une manière qui ne le glorifie pas? Autrement dit, nous pouvons travailler pour Dieu comme le mercenaire. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Avez-vous déjà pensé à cela? Un mercenaire, lui, travaille pour un... pour un salaire. Le mercenaire travaille pour un salaire. Tandis que le bon berger ne travaille pas pour un salaire, il travaille par amour pour les brebis. Et vous allez vous dire, mais alors comment savoir si je travaille pour un salaire ou si vraiment je travaille par amour pour le Seigneur pour expérimenter une vie abondante? Alors écoutez-moi bien. Vous pouvez savoir si vous travaillez pour un salaire lorsque, par exemple, lorsque vous faites quelque chose, vous attendez un merci. Quand on fait quelque chose et qu'on attend un merci, on attend notre salaire, n'est-ce pas vrai? On attend notre salaire. Et beaucoup de personnes attendent encore leur merci maintenant, de l'action qu'ils ont faite, de la bonne œuvre qu'ils ont accomplie. Ils attendent le merci de la personne. Et comme le merci ne vient plus, on ne fait plus rien du tout. Et on est déçu, et on est étonné qu'on n'expérimente plus la vie abondante. Si vous attendez un merci, alors je vous plains. Vous êtes en train de vous dessécher. Si vous attendez un merci des autres, vous êtes esclave des autres. Cela n'est point la vie abondante. Le bon berger travaille volontairement. Merci ou pas merci, je t'aime encore et je t'aimerai toujours. Alléluia. La récompense nous sera donnée là-haut dans le ciel. Alléluia. Et il y a aussi un autre moyen de réclamer son salaire. Vous savez comment c'est? C'est en travaillant et en recherchant l'approbation des hommes. Ça aussi, c'est une autre forme de salaire. Certains ne travaillent que s'ils sont approuvés. Mais à partir du moment où ils sont critiqués, rejetés, incompris, plus rien du tout. Oh, mais j'ai cru que pour le Seigneur, j'ai tout fait pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Je sers le Seigneur. Et... c'est tout ce qu'on m'offre. La critique, la rejection, l'incompréhension. Et nous sommes déçus. Et beaucoup ont arrêté de travailler uniquement parce qu'ils n'ont pas rencontré l'approbation des hommes. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, n'a jamais travaillé pour rechercher cette approbation. Le croyez-vous? Autrement dit, servir le Seigneur, c'est le servir, même lorsqu'on n'est pas approuvé. pourvu qu'on ait l'approbation du Seigneur, c'est la chose la plus importante pour expérimenter une vie nouvelle, une vie abondante. Alléluia! Et il y en a d'autres aussi qui ont un autre salaire, qui recherchent un autre salaire. Ils travaillent tant qu'ils n'ont pas d'échec. Alors vous les voyez, c'est formidable. Oh, vous savez, si le Seigneur me bénit, tout ce que je fais actuellement est béni du Seigneur. Alors vous les voyez crier Alléluia, c'est formidable. Mais au moindre échec dans leur témoignage ou dans leur travail, ils sont bloqués et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont eu un échec. Leur orgueil en a pris un coup trop fort et ils se disent, à partir de maintenant, il vaut mieux rester tranquille parce que moi je n'aime pas les échecs. Autrement dit, on travaille tant qu'on a un plein succès. Mais dès qu'il y a l'échec, on ne veut plus rien. Et cela n'est pas le secret de la vie abondante. Nous devons apprendre à travailler, non pas pour avoir du succès, mais nous devons apprendre à travailler parce que nous aimons le Seigneur et que nous lui obéissons. Alléluia. Autrement dit, celui qui veut travailler sans échec, c'est celui qui veut être béni, sans difficulté, sans sacrifice, sans renoncement. Et il n'y a pas de bénédiction possible tant que nous ne prenons pas le chemin de la croix, le chemin du renoncement. Oh Jésus, je veux te suivre. Peu importe le renoncement par lequel je dois passer, peu importe l'opprobre par lequel je passerai, mais Seigneur, dans la bénédiction comme dans l'humiliation, j'ai décidé de t'aimer et de se servir. Alléluia! Voilà l'amour véritable qui nous fait transporter de victoire en victoire et d'épreuve en épreuve jusqu'à la victoire finale. Amen. Et vous savez, il y en a un autre qui réclame un autre salaire. Vous dites, oh mais moi, dans tout ce que vous avez dit, il n'y a rien du tout. Mais vous savez, il y en a d'autres qui réclament un autre salaire. Vous savez lequel c'est? On peut travailler comme le mercenaire pour se faire un nom. Pour se faire un nom. Ça, c'est un salaire aussi qui coûte cher. Beaucoup de personnes ne font que les choses pour être vues et pour être admirées. Et c'est pourquoi ces personnes-là ne feront jamais un travail, par exemple, qui est humiliant ou que personne ne voit. Oh là là, c'est pas intéressant. On n'a pas vu ce que j'ai fait. Alors, puisqu'on ne me regarde pas, au revoir, messieurs, dames. Je n'ai pas une révélation maintenant pour faire ce travail. Et on a aussi des prophéties. On dit, oh non, non, le Seigneur ne m'a pas parlé pour faire ce travail. Mais quand c'est un travail en vue, oh là là, oh oui, 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 oh, le Seigneur m'a dit que c'était pour moi ce travail. Et sans nous en rendre compte, il y a une subtilité là derrière. Nous travaillons pour être vus des hommes. Mais le bon berger ne travaille pas dans cet esprit-là. Il travaille pour que le Fils de l'homme soit vu et que lui-même soit abaissé. Voilà le secret de la vie abondante. Voulez-vous encore la vie abondante? Ça coûte cher. C'est pourquoi ça a une grande valeur. Le croyez-vous?
Oui, amen.
Il n'y a plus d'alléluia maintenant. Enfin,
alléluia.
Ça fait rien.
Amen.
Je vous comprends quand même, va.
Alléluia.
Alléluia. Le bon berger, lui, travaille volontairement et par amour. Une troisième source maintenant va se dégager de ce passage que nous venons de lire. C'est que le bon berger prend ses responsabilités. Alors que le mercenaire, vous l'avez remarqué, le mercenaire, lui, dès que la difficulté arrive, il s'enfuit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il ne se met point en peine des brebis. Autrement dit, il y a une indifférence totale concernant les autres. Oui, bénédiction, alléluia, mais responsabilité, plus rien du tout. Vous pouvez compter sur moi pour les bénédictions, frère. Mais le jour où il y a distribution de responsabilité, vous savez, j'ai mal à la tête ce soir-là. Ou j'ai un autre travail à faire. Le mercenaire fuit les responsabilités. C'est pourquoi chaque personne, chaque chrétien, chaque laïc doit être engagé dans le service du Seigneur. Nous comptons tous trop sur le travail du pasteur ou de l'évangéliste ou du prêtre ou je ne sais qui. Nous comptons trop sur eux. Et à cause de cela, l'œuvre du Seigneur ne se fera pas. L'évangélisation de ce monde et le travail pour le Seigneur ne se fera que lorsque tous les chrétiens, comme une armée, s'engagent au service du Seigneur et lui donnent toute leur vie. Alléluia. Le bon berger prend ses responsabilités. Il ne fuit pas lorsque l'ennemi vient. Au contraire, il s'engage. Et vous savez, la responsabilité produit une croissance spirituelle extraordinaire. Et j'espère et je prie de tout mon cœur qu'en quittant ce rallye, vous ayez pris devant le Seigneur, non pas devant les hommes, mais devant le Seigneur, l'engagement de vous donner entièrement au Seigneur et de lui dire, « Ô Jésus, quelle est la responsabilité que tu m'as accordée ? Je veux maintenant accomplir cette responsabilité et cette tâche que tu m'as donnée à partir de maintenant jusqu'à ton retour. » C'est là la chose la plus importante que vous pouvez faire. Non pas dire, « Oh, c'était merveilleux, tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons vu. » Dieu réclame quelque chose de plus de chacun d'entre nous. C'est que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pris de responsabilité, mais maintenant vous lui dites, « Seigneur Jésus, je veux faire quelque chose pour toi. Amen. Je veux maintenant prendre des responsabilités. Amen. Je ne veux pas fuir quand le loup arrive. Je veux maintenant m'engager. Je veux être une personne adulte, une personne responsable. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué dans ma propre vie les trois fruits que la responsabilité apporte dans une vie. Trois fruits. Lorsque vous prenez des responsabilités, la première chose que vous découvrez est celle-ci. C'est d'abord l'incapacité de votre propre cœur. La méchanceté, l'incapacité, la faiblesse de votre propre vie. Car tant que nous ne faisons rien, nous avons l'impression d'être les champions, n'est-ce pas vrai? Vous savez, quand quelqu'un ne fait rien, il se prend pour un apôtre, il se prend pour un prophète, il se prend pour le plus grand des évangélistes. Tant qu'on ne fait rien du tout, on a l'impression d'être les champions. Et on donne des ordres, des conseils un peu à tout le monde, n'est-ce pas vrai? Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Mais la responsabilité opère ce miracle. La responsabilité brise votre cœur orgueilleux. Vous réalisez enfin qui vous êtes et que travailler pour le Seigneur n'est pas si facile que cela. Et la première des choses que la responsabilité produit, c'est le brisement de votre orgueil. Vous réalisez votre faiblesse totale. Et quand vous réalisez votre néant, alors vous cessez de juger et de critiquer les autres.
Nous voici arrivés à la fin de la première phase. Nous vous invitons à retourner la cassette pour en écouter la suite. Merci. dans quelques instants le début de la seconde face.
Quand l'homme a eu la révélation de la noirceur, de la souillure et de l'orgueil de son propre cœur, alors cet homme a été brisé. Et il est le dernier à vouloir accuser, critiquer ou rejeter l'autre. Parce que le travail n'a pas été fait ou parce que la chose n'a pas été comme il le fallait. Mais combien sont les hommes qui sont très faciles à critiquer les autres? Nous le savons, n'est-ce pas, la critique est aisée, mais l'arrêt, difficile. Critique est aisée, mais l'arrêt difficile. Pas seulement dans le monde, cela, mais aussi dans l'Église. Dans notre vie, personnellement. Avez-vous remarqué? La responsabilité produit un brisement dans votre être. Vous verrez que le travail n'est pas si facile à faire. Vous allez vous casser le nez, et cela est bien. Deuxièmement, le Seigneur ne veut pas nous en laisser là, bien sûr. Ça, c'est un fruit amer. Il faut toujours commencer par l'amertume, pour finir ensuite dans la joie. Alléluia. L'Ecclésiaste disait, « Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. » Le deuxième fruit que la responsabilité produit, nous parlons là de vie abondante. Il n'y a pas de vie abondante sans responsabilité. Le deuxième fruit est celui-ci. Je l'ai réalisé moi-même, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez réalisé. C'est que, au moment où nous passons à l'action, nous commençons à discerner, à réaliser le don que Dieu nous a donné. C'est dans l'action, dans le service, que Dieu va vous montrer ce qu'il vous a donné. Vous ne le saurez jamais autrement, en tout cas moi j'ai jamais su autrement. Combien de personnes attendent des choses extraordinaires avant de se mettre au travail? Ils attendent des révélations, ils attendent des choses, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour se mettre au travail. Mais les choses ne vont pas ainsi avec le Seigneur. C'est dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande que nous découvrons le talent que Dieu nous a donné. Amen.
Amen.
Quel est le talent que Dieu t'a donné? Tu ne le sais pas? Alors, mets-toi à genoux devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, maintenant je veux m'engager dans la chose qui vous semble le plus facile à faire, dans la prière. Dieu vous ouvrira une porte. Obéissez, agissez, et dans l'action viendra la révélation du talent que le Seigneur donne. Alléluia. Et un troisième fruit merveilleux, c'est que non seulement nous avons la révélation du talent que Dieu nous a donné, mais le talent que Dieu nous a donné est multiplié. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Avez-vous remarqué? À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Autrement dit, si vous mettez au service des autres le talent que Dieu vous a donné, Dieu multipliera ce talent. Et vous ferez des choses encore beaucoup plus grandes. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est ainsi que Dieu agit. Es-tu déjà fidèle dans le talent que Dieu t'a donné? Où est-ce que tu l'as enterré? Trop de chrétiens ont une mine d'enterrement parce qu'ils ont enterré leur talent.
Alléluia.
Sors ton talent de la terre et tu ressusciteras avec ce talent pour une vie nouvelle.
Amen.
Vous auriez pu dire alléluia un peu plus fort.
Alléluia.
Le bon berger prend ses responsabilités. Voilà ce à quoi ces réunions ont comme but. Si ce n'est uniquement pour nous faire aller dans un rêve et passer des bons moments, alors toutes ces réunions ont perdu leur sens. Ceux qui sont ici, ce sont ceux qui précisément ont saisi cette vision céleste. Ils ne sont pas satisfaits seulement pour eux-mêmes. Ils veulent aussi être en bénédiction aux autres. Et il n'y a pas de vie abondante tant que nous ne saisissons pas cette vision. Seigneur, pas seulement vivre pour moi, mais aussi me donner pour les autres. Alléluia.
Amen.
une quatrième source maintenant de la vie abondante. Nous le remarquons que lorsque l'ennemi est venu, le bon berger a fait fuir l'ennemi. Donc la quatrième source est celle-ci. Le bon berger fait fuir l'ennemi. Tandis que le mercenaire, lui, il a peur de l'ennemi. Vous savez que dans la vie abondante, dans la vie de l'esprit, il y a des dangers. Savez-vous qu'il y a des combats? Savez-vous qu'il y a un ennemi?
Oh là là, ne me parlez pas trop d'ennemis. Moi, monsieur, je suis un pacifiste. Non, c'est plus pour moi, ça. Mais que dit l'apôtre Paul à Timothée?
Combat, le bon combat de la foi. Vous savez pourquoi il l'appelle le bon combat de la foi? C'est un bon combat. Pourquoi il est bon? Parce que l'ennemi est vaincu d'avance. Et parce que nous sommes vainqueurs d'avance.
Amen.
Alors qu'est-ce que vous voulez faire?
Amen.
Avec un ennemi qui est déjà vaincu d'avance. Et nous, vainqueurs d'avance, mais c'est un combat extraordinaire. C'est le bon combat de la foi. Vous devez savoir une chose, c'est que dans la vie chrétienne, il y a des combats. Mais Dieu soit béni, si les combats sont grands, les victoires seront grandes. Si les épreuves sont grandes, les bénédictions seront grandes. C'est Hudson Taylor, le fameux missionnaire en Chine du siècle passé, qui avait dit « Les temps d'épreuves sont toujours des temps de bénédiction. » Alléluia! Le bon berger fait fuir l'ennemi. Il n'a pas peur de l'ennemi. Mes chers amis, si nous sommes à Jésus-Christ, alors l'ennemi a été vaincu par Jésus à notre place. Lorsque Jésus a vaincu l'ennemi, c'était nous aussi, avec lui, qui l'avions vaincu. Alléluia! Soumettez-vous à Dieu, nous dit la Bible. Jacques, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà ce que les chrétiens doivent faire. Voilà ce que celui qui veut expérimenter la vie abondante doit faire. Premièrement, voilà un peu les trois tactiques de la guerre spirituelle. Premièrement, se soumettre à Dieu. Il n'est pas question d'avoir une autorité sur le diable tant que votre vie n'est pas soumise à Dieu. Le diable est plus fort que vous, le diable est plus fort que moi, le diable est le prince de ce monde. Mais le diable n'est pas plus fort que Jésus. Jésus est plus fort que le diable. Il a vaincu le diable en mourant sur la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, vous auriez pu dire un alléluia un peu plus fort là.
Alléluia.
Gloire au Seigneur. Premièrement, si nous voulons faire fuir l'ennemi dans notre vie, chasser la crainte, chasser le doute, chasser nos passions, chasser ces tourments qui nous enveloppent, chasser cette insomnie qui nous empêche de dormir, chasser cette maladie, chasser cette crainte, chasser cette timidité. Comment être libéré de tout cela? Premièrement, soumets-toi à Dieu. Remets ta vie au Seigneur. Ne sois plus le maître de ta vie. Consacre ta vie. Car de toi-même, tu n'auras aucune victoire. Consacre ta vie. Oh, dit Christ, et ma vie comme l'apôtre, et la mort m'est un gain. Alléluia! Et vous savez le miracle qui se passe lorsque nous soumettons notre vie à Jésus. Alors, nous recevons l'autorité de Jésus. C'est là le miracle extraordinaire. C'est quand nous nous soumettons au Seigneur, alors le Seigneur nous dit, puisque tu es soumis à moi, alors maintenant, je peux te donner mon autorité. Et avec cette autorité qu'il vous donne, parce que vous êtes un soumis, un obéissant, vous pouvez ensuite résister au diable. Vous pouvez lui dire maintenant, tu t'en vas, parce que ma vie est à Jésus. Je suis soumis à Jésus. Je suis obéissant à sa parole. Maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas loin de ma vie. Tu t'en vas loin de mon mari. Tu t'en vas loin de mes enfants. Tu t'en vas loin de mes amis. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? La vie abondante est une vie glorieuse, mais c'est une vie de combat. Mais c'est le bon combat de la foi, le combat victorieux d'un Christ glorieux et d'un enfant de Dieu ressuscité avec lui et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Que Dieu soit béni. Premièrement, tu te soumets à Dieu. Deuxièmement, tu reçois son autorité. Et troisièmement, tu peux lui dire maintenant tu t'en vas. Et il doit partir. Vous savez, il n'est pas seulement dit il partira. Avez-vous remarqué le verbe là? Résister au diable et il fuira. Il n'est pas dit qu'il partira. Le verbe est très intéressant. Avez-vous remarqué quand vous chassez par exemple un petit chien loin de vous? Vous prenez le caillou. Un petit peu ici, toi. Attends ici. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le petit chien s'enfuir. Quand le petit chien s'enfuit, vous savez qu'il a peur de vous. Le chien est littéralement paniqué. Quand quelque chose ou quelqu'un s'enfuit loin de vous, c'est quelqu'un qui est tourmenté, qui a peur de vous. Ainsi en est-il du diable. Lorsque notre vie est à Jésus, nous pouvons lui dire « Va-t'en !» et il fuira et il aura peur de nous. Alléluia. Ce n'est plus vous qui devez avoir peur de lui, mais c'est lui qui a peur de nous. Voilà la révélation biblique de la défaite de l'ennemi et de la victoire du chrétien.
Amen.
Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont un grand diable et un petit Dieu. À les entendre parler, il semble que le diable est le vainqueur dans leur vie. Oh, vous savez, le diable m'a fait ceci. Oh, vous savez, le diable m'a fait cela. Et puis alors, quant à Jésus, il n'arriverait même pas à leur guérir un mal de tête. Même pas cela. Oh, vous savez, je crois qu'il est puissant. Mais il n'est pas assez puissant pour guérir un mal de tête. Et quand on parle du diable, on dit, oh, vous savez, mais le diable lui fait des miracles, vous savez. Oh, mais vous savez, le diable fait de grands miracles. Et quand il parle de Jésus, il est incapable de faire quoi que ce soit. N'est-ce pas une contradiction? Mais il fuira loin de vous. Oh, mes chers amis, voilà le secret de la vie abondante. Ne croyez-vous?
Amen.
Il fuira. Commencez à résister. Vous savez, si vous laissez faire l'ennemi, il vous détruira. Son but est de vous détruire. Mais Jésus l'a déjà détruit. Ne vous laissez pas détruire par quelqu'un qui est détruit. Ne vous laissez pas lier par quelqu'un qui est lié. Ne laissez-vous pas avoir peur par quelqu'un qui a peur de vous. Ne courez pas devant quelqu'un qui fuit devant vous. Oh, dites-moi, quelle contradiction. Avez-vous pensé à cela? Il y a des chrétiens qui fuient devant le diable, qui fuient loin d'eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel spectacle! Le diable fuit loin de toi, tu fuis loin de lui. Mais ça va pas. Alléluia! Il fuira loin de toi, parce qu'il est vaincu éternellement. Amen.
Amen.
Et je vais terminer par ma cinquième source de la vie abondante. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, tandis que le mercenaire sauve sa vie. Tout ce que le mercenaire fait, c'est en vue de sauver sa vie. Avez-vous pensé? Tout ce qu'il fait, il peut faire des choses magnifiques, mais quand cela lui coûtera trop, alors il n'y a plus personne. Il fait tout pour sauver sa vie. Autrement dit, il n'y a pas de renoncement, pas de difficulté, pas de souffrance, il refuse à tout cela. Tandis que le bon berger donne sa vie, il est prêt même à aller jusqu'à la mort même de la croix. Alléluia. Et si nous voulons expérimenter la vie abondante, nous ne devons plus sauver notre vie. Celui qui sauvera sa vie, a dit Jésus, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Alléluia! Le bon berger donne sa vie. Il se livre lui-même par amour pour ses brebis. Ça lui coûte quelque chose. Ça lui coûte des larmes. Ça lui coûte du temps. Ça lui coûte de son argent. Ça lui coûte quelque chose. Le salut est gratuit. Mais la bénédiction que nous voulons pour bénir les autres, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit pour nous-mêmes. Mais si nous voulons être une bénédiction pour les autres, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est le don de sa vie à Jésus. Un don d'amour pour le Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia. Ne cherche plus à sauver ta vie. En la sauvant, tu la perdras. En la sauvant, tu seras toujours esclave de toi-même. Perds ta vie et tu la sauveras. Jésus la prendra et ta vie dans sa main sera une vie bénie, protégée, joyeuse, victorieuse jusqu'à son retour. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Inclinons-nous quelques instants dans la prière maintenant. Laissons-nous sonder par la parole de Jésus. Si Dieu a parlé à votre cœur, obéissez-lui maintenant. Alléluia. Alléluia. Ayons un moment de silence. Ayons une mise au point devant le Seigneur. Est-ce que ta vie a plutôt ressemblé au mercenaire? Ou est-ce que ta vie est plutôt comme celle du bon berger? Veux-tu ce soir te donner entièrement à Jésus, lui obéir, te donner 100%, quel que soit le prix à payer? Si tu lui donnes tout, il te donnera tout. Alléluia. Ayons un moment de prière maintenant. Alléluia. S'il y avait certaines personnes qui voulaient se reconsacrer au Seigneur ce soir et obéir à ce que Dieu leur a montré, levez votre main, je vais prier pour vous maintenant. Ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui veulent ce soir faire comme un nouveau pas, une nouvelle décision, une nouvelle détermination, dans un nouvel esprit, dans l'esprit du bon berger et non plus dans l'esprit du mercenaire. Si quelqu'un veut se reconsacrer, levez votre main devant le Seigneur et je vais prier pour vous maintenant. Oui, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Levez votre main devant le Seigneur, pas devant moi, mes chers amis. Ce n'est pas moi, ça ne compte rien, c'est devant le Seigneur. Et le Seigneur tient compte de cela, alléluia. Le Seigneur tient compte de cela, tient compte de cela, il tient compte de cela. Je demande à ces personnes de se lever maintenant. Levez-vous là où vous êtes, levez-vous là où vous êtes, comme devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Que tous les yeux soient fermés, je vous en supplie. Ce n'est pas un spectacle. Que tous les yeux soient fermés. Ceux qui veulent ce soir se reconsacrer à lui. Oh, expérimenter cette vie abondante et vivre pour lui. Le Seigneur vous bénira maintenant. Oh, Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas un spectacle, tu le sais. Tu veux la vie abondante. Tu nous aimes ardemment. Oh, Jésus. Je te prie en cet instant pour tes enfants qui se sont levés maintenant. Je te prie de les bénir richement. Alléluia. Que ceux qui se sont levés prient maintenant le Seigneur. Priez-lui maintenant là où vous êtes, dans une prière de consécration. Ce que vous avez envie de lui dire, dites-le lui à haute voix maintenant. Faisons-le tous maintenant. Faisons-le dans une prière générale, afin que vous ayez l'occasion de lui ouvrir votre cœur. Si vous avez péché, dites-lui j'ai péché. Si vous dites il y a quelque chose qui ne va pas, dites-lui Seigneur ça ne va pas. Guéris-moi, ne gardez rien dans votre cœur. Dites-lui tout, dites-lui tout, dites-lui tout. Dites Seigneur, je n'en peux plus, je ne veux plus que ça dure comme cela. J'ai sauvé ma vie jusqu'aujourd'hui. Aie pitié de moi, Seigneur. Prends ma vie. À partir de ce soir, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Prions tous. Alléluia. Seigneur, prends nos vies. Seigneur, agis dans nos vies. Seigneur, qu'à partir de ce jour, une nouvelle étape soit marquée dans la vie de chacun d'entre nous ici. Que nous ne soyons plus les mêmes à partir d'aujourd'hui. Seigneur, nous offrons nos vies sur l'autel du sacrifice, afin de faire ta volonté et non la nôtre. Oh Jésus, nous t'aimons ce soir. Jésus, tu as exaucé notre prière. Tu nous as pardonné aussi de toutes nos inconséquences. Tu nous purifies aussi de tout ce qui a pu te déplaire. Et à partir de ce jour, ton sang nous a lavés. Ton onction descend sur nous. Et tu nous donnes une nouvelle orientation, une nouvelle responsabilité et une nouvelle onction. Pour ton service et pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Levons-nous tous maintenant, s'il vous plaît. Levons-nous tous dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est là maintenant. Alléluia. Alléluia. Levons tous les mains vers le ciel. Alléluia. Et louons le Seigneur tous ensemble maintenant. Donnons-lui toute la gloire. Donnons-lui toute la gloire. Exaltons-le. Offrons nos vies en sacrifice. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Oh Jésus, nos vies sont à toi. Tout pour la gloire de Jésus. Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons. Te louons pour cette bonté qui nous donne la vie. C'est par ta bonté que nous vivons, et c'est par ta bonté que nous sommes ici, et c'est par ta bonté que tu nous bénis encore maintenant, et ce soir et demain et toujours. Oh, nous gardons nos cœurs ouverts, nous nous sommes donnés à toi, Seigneur, et toi tu te donnes à nous, et tu nous combles de tes bienfaits, de tes grâces. Seigneur, garde-nous maintenant dans ta paix, dans ta présence, dans ton amour et dans l'obéissance à ta voix. Merci, Seigneur. Oh, nous te serrons dans notre cœur et nous t'aimons. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui as donné ta vie en mourant sur la croix, toi qui as souffert pour nous, toi juste, pour nous injustes. Tu as souffert pour nous. Tu as porté nos souffrances et nos maladies. Oh Jésus, Jésus, tu nous veux dans la joie, dans la guérison, dans la santé et dans la vie abondante. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore.
Amen.
Pour la gloire de ton nom.
Amen.
Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
Je sais qu'il m'aime.
sait qu'il m'aime. Et pour tous les temps, fini les jours de désespoir, vide et sans fin, fini les jours où tout est noir, où rien ne vient envoler les heures de détresse. Quand il ne reste rien qu'un cœur triste et si lourd, j'ai rencontré l'amour, je sais qu'il m'aime éternellement. Je sais qu'il m'aime. Et pour tous les temps, quand sur ma vie il s'est penché, tendant ses bras, il m'a fait voir ses mains percées. J'ai su pourquoi il avait accepté la mort, et la mort de la croix, c'était pour me sauver. Alors je veux chanter, je sais qu'il m'aime éternellement. Je sais qu'il m'aime, et pour tous les temps. Le monde peut se rire de moi et se moquer, tous pourraient me montrer du doigt, m'abandonner, plus jamais je ne serai seul, puisqu'il est avec moi, et que j'entends sa voix. Je sais qu'il vit en moi, je sais qu'il m'aime éternellement. Je sais qu'il m'aime, et pour tous les temps, je sais qu'il m'aime éternellement. Oui, Jésus m'aime, et pour tous les temps.